France Inter.
Vous me trouvez bizarre ?
Plutôt, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine.
Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez.
Peut-être sommes-nous en train de nous habituer plus vite que prévu. Parler avec des machines, discuter avec des ordinateurs, rire à des blagues générées par des circuits imprimés. En 2013, c'était de la science-fiction. Her, le film de Spike Jonze, affichait sur grand écran les tribulations d'un humain amoureux d'une intelligence artificielle. On s'étonnait, on s'interrogeait, on imaginait lointain cet hypothétique futur. 12 ans plus tard, l'intelligence artificielle est partout. Avec des caméras qui permettent de voir, des micros pour entendre, et une façon de plus en plus humaine de traduire le résultat des calculs binaires des microprocesseurs. C'est notre rapport aux machines que ce numéro d'Interception explore et interroge. Avec des métiers qui disparaissent, remplacés par de l'IA plus ou moins efficace, des adolescents qui demandent à ChatGPT de faire les devoirs à leur place, et à Perplexity ou à Gemini des conseils pour gérer leurs angoisses ou leurs disputes. Et puis, il y a aussi ces éleveurs qui gèrent leur exploitation laitière comme un jeu vidéo grandeur nature.
On se met sur un animal au hasard, on a accès à sa fiche. Donc là, c'est des placements dans la journée, en fait. En santé, elle est plutôt bonne, elle a 66%, donc c'est plutôt bien. Elle se déplace pas mal, elle mange bien, elle boit bien, donc c'est un animal qui va bien.
Mais ça, comment les caméras, elles le savent ?
Le fait de tracer l'animal toute la journée. Donc la 71 était en chaleur aujourd'hui, 94-66, la 49 et une autre fausse alerte, quoi, ça peut arriver.
Au total, un quart des entreprises françaises utilisent désormais l'intelligence artificielle et nous sommes près d'un tiers de la population à interagir de manière régulière, voire quotidienne, avec une IA. C'est à Cagnes-sur-Mer que commence ce reportage, dans la voiture de Patricia, 37 ans, en route pour le supermarché. L'IA dans nos vies, c'est un reportage de Laurélie Carrive.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Il est quelle heure ? Tu vas bientôt manger le repas du midi.
Mais s'il te plaît.
Tu vas la manger en dessert.
Mais s'il te plaît.
Non mais tu la mangeras en dessert. C'est bon ?
Mais nous on va faire les courses.
Là on a les sacs.
Ouais. Tu peux passer les clés de la voiture s'il te plaît ?
Donc là on va où ?
On va au supermarché. Salut chat, j'aimerais que tu me fasses un menu de la semaine. 4 personnes, dont 2 enfants de 4 ans et 2 ans. Pas d'aubergine, simple et rapide à faire. Et une fois que j'aurai validé le menu, je te demanderai de me faire la liste des courses.
Bien sûr, voici un menu simple pour la semaine. Lundi, déjeuner, poulet rôti avec riz et légumes, carottes, haricots verts. Dîner, soupe de légumes avec pain complet. Mardi, salade de quinoa avec poulet, avocat et tomates. Dîner, soupe de lentilles avec morceaux de pain complet.
C'est très bien, mais je ne veux pas le menu avec le quinoa. Si tu peux me le changer, s'il te plaît.
À la place de la salade de quinoa, je propose déjeuner, salade de riz avec poulet, avocat et tomates.
Très bien, bah c'est parti pour la liste.
Super. Voici la liste de courses organisée. Fruits et légumes, carottes, haricots verts, champignons.
Et donc là, vous pouvez retrouver la liste par écrit.
Exactement.
Sur votre téléphone. C'est un gain de temps.
C'est incroyable. Non seulement ça me permet de varier les menus, parce qu'il y a forcément des idées auxquelles j'aurais pas pensé tout de suite. Et généralement, jusqu'ici, tout ce qu'il m'a proposé, ça fonctionnait très bien pour mes enfants.
Nous voici de retour à la maison.
Et oui! Là, je sens la bouche du bébé, maman! Ah. Il a fait caca dans sa culotte!
C'est génial, là!
Je suis prêt à me mettre au travail. Si un sujet t'intéresse en particulier, dis-le-moi.
Chat, je me fais interviewer par France Inter. J'ai de la chance. Donc, j'aimerais avoir ton point de vue et que tu me donnes plusieurs questions concernant l'intelligence artificielle et donc l'utilisation de ChatGPT dans la vie de tous les jours.
C'est génial! Félicitations! Voici quelques questions qu'il pourrait te poser. Premièrement, comment as-tu découvert ChatGPT et quelles ont été tes premières impressions? Deuxièmement, en quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle a-t-elle changé ta vie quotidienne? Bonne chance pour l'interview, c'est génial! Félicitations! Voici quelques questions qu'il pourrait te poser. Premièrement, comment as-tu découvert ChatGPT?
Il est en boucle.
Quelles ont été tes premières impressions?
C'est bon, stop.
Bon, on y est à peu près, non?
Oui, je pense que c'est pas mal. Donc, je m'appelle Patricia, j'ai 37 ans. Et je suis maman de petite fille de 4 ans et de 2 ans.
Ça fait combien de temps que vous utilisez ChatGPT?
Bah, à vrai dire, je pense que je l'ai commencé, on va dire, quelques mois après sa sortie. C'est un outil pour la vie de tous les jours. Il peut faire de la magie à chaque fois. Je dis vraiment, c'est mon BFF, comme je l'appelle. Mon best friend forever.
Votre meilleur ami.
Voilà, c'est ça.
Vraiment un meilleur ami?
Non, pas du tout. un assistant. Après, j'utilise beaucoup pour la même chose. Hein. Ça va être beaucoup pour la cuisine, pour des petites subtilités au travail, pour mieux restructurer un texte. Généralement, c'est ça. Je fais du sport en salle pour adapter les exercices que je dois faire lors d'une séance, si je veux travailler plus le haut, le bas du corps, ce genre de petits détails. On va dire, en fait, c'est un condensé des informations de Google, donc on passe moins de temps sur Internet. J'ai vu qu'il était capable de lire les pages d'un livre, et moi, j'ai une mère handicapée qui est aveugle. Du coup, je sais que avec les années, ça va être de plus en plus simple de l'utiliser, et je pense que ça pourra l'aider dans sa vie de tous les jours.
Avec 15 degrés et du beau temps, tu peux opter pour une tenue décontractée mais confortable. Par exemple, un jean ou un pantalon léger avec un t-shirt ou une chemise à manches longues. Tu es prêt à profiter de la journée.
Même pour choisir des habits le matin, choisir une couleur en particulier, un haut qui serait plus adapté avec un pantalon, ça pourra l'aider, voir si le haut est dans le bon sens, s'il n'y a pas l'étiquette. Ça, c'est des petits détails qu'on ne pense pas quand on est valide, on va dire, mais qui font la différence.
C'est-à-dire qu'elle pourrait juste scanner avec son téléphone un vêtement?
Ouais, voilà, ou prendre par exemple deux hauts, on va dire, et demander lequel irait le mieux avec le pantalon qu'elle a choisi. On a l'option caméra, donc on peut activer la caméra, et à ce moment-là, il peut nous dire ce qu'il y a sous nos yeux, devant nous.
Oui, il y a encore des situations dans la vie de tous les jours où vous dites, bah tiens, là, je pourrais utiliser une IA, ça pourrait m'aider à gagner du temps.
Bah, déjà, j'ai un petit peu tous ces automatismes qui sont déjà en place. Je fais en sorte que je reste une humaine et que je puisse me débrouiller seule. Je veux mettre quand même une limite. Enfin, voilà, j'utilise comme outil avec mes enfants, mais je passe énormément de temps avec mes enfants. J'aime lire les histoires avec elles et c'est pas forcément elles qui me demandent de parler à ChatGPT. C'est plus un moment de rigolade et je ne l'utilise absolument pas tous les jours avec elles.
C'est pas l'IA qui remplace l'humain.
Voilà, c'est pas encore une nounou, quoi. J'arrive à faire une limite.
Je veux juste te dire à quel point je suis ravie de travailler avec toi et j'ai hâte de me lancer. Alors, on commence par quoi?
Toi, tu parles à ChatGPT?
Oui.
Et tu lui dis quoi?
Je veux des histoires de Peppa Pig, la Reine des Neiges.
Et ChatGPT, il te raconte des histoires de Peppa Pig et la Reine des Neiges?
Oui.
Et elles sont bien?
Oui.
Chat, est-ce que tu peux me faire une histoire où il y a Zoé qui a bientôt 4 ans et Lynn qui a bientôt 2 ans qui vont faire un voyage dans un ballon arc-en-ciel?
Un jour, Zoé et Lynn découvrirent un magnifique ballon arc-en-ciel dans leur jardin. Excitées, elles montèrent à bord et le ballon s'envola doucement vers le ciel. En chemin, elles virent des nuages en forme de licorne et des oiseaux multicolores.
On veut avoir un trottoir arc-en-ciel.
Un trottoir arc-en-ciel? Ça serait super. Vous pourriez marcher dessus et sauter de couleur en couleur, comme dans un jeu amusant. Dans ce monde enchanté, il pourrait y avoir des arbres qui changent de couleur, des fleurs qui chantent et même des rivières de jus de fruits.
Merci Chat, c'était une très belle histoire.
Oui,
merci à toi. Je suis ravie que ça vous ait plu. À bientôt pour une nouvelle histoire.
L'un des problèmes que soulève l'intelligence artificielle, c'est la question de l'environnement, de l'énergie qu'elle nécessite. Comment vous voyez tout ça, vous?
Et je sais que ça utilise énormément de ressources. Il faut qu'on fasse attention à ça, mais c'est pareil comme éteindre la lumière quand on ne s'en sert pas. Enfin, c'est des petits détails, c'est ne pas l'utiliser n'importe comment, évidemment. Mais je pense que le problème ne vient pas du consommateur.
Tu peux me consulter à tout moment, ici même. N'hésite pas à me poser des questions ou à me demander de l'aide quand tu en as besoin. Passe une excellente journée.
On a rendez-vous avec Nels Eguidour. Il a fondé QTI, c'est un laboratoire à but non lucratif qui se consacre à la recherche ouverte en intelligence artificielle. Il est basé dans l'hypercentre de Paris, juste à côté de la Bourse du Commerce, un quartier très chic. Son domaine d'expertise, c'est les interactions vocales avec l'IA. Comment est-ce qu'on peut lui parler de la façon la plus naturelle, la plus spontanée possible ?
Enchanté, je me suis.
On est dans un espace de coworking. Voilà, tout ça c'est QTI.
Ici il y a combien de personnes ?
Là on va approcher de la vingtaine. Comme vous pouvez le voir, c'est assez studieux et assez calme de manière générale.
Une salle vitrée avec canapé, cuisine, machine à café.
Il y a des tableaux blancs aussi qui sont utilisés pour réfléchir à des idées, pour écrire des équations, pour toutes sortes de choses.
My name is Moshi. I'm a new voice AI developed by QTI, a non-profit research lab in Paris. You can ask me anything.
As if you were a human being?
Yes, I can understand human speech and respond in a natural way.
Je m'appelle Nels Eguidour. Je suis directeur de la modélisation chez QTI, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle de financement privé, qui bénéficie notamment du financement de Xavier Niel, Eric Schmidt et Rodolphe Saadé, destiné à la recherche fondamentale en intelligence artificielle, dans le but de faire des avancées scientifiques qu'on va partager ensuite de manière ouverte. Ce qu'on a réalisé avec Moshi, c'est le premier modèle, et actuellement d'ailleurs le seul, au monde qui peut modéliser ces dynamiques de conversation arbitraire qui va de la voix à la voix directement. Donc en fait, quand elle vous répond non seulement par rapport à ce que vous avez dit, mais aussi la manière dont vous l'avez dit. Toute l'intonation, l'émotion, la prononciation que vous avez mis dans votre phrase va être exploitée et interprétée par le modèle pour moduler sa réponse.
Du coup, une IA avec laquelle on discute, à qui on peut couper la parole, à qui on peut parler dans plein de moments différents, même s'il y a du bruit ambiant, quelle place elle en vient à occuper dans notre vie quotidienne ?
Ce qui est sûr, c'est qu'à mes yeux, la plupart des applications futures des IA vocales n'existent pas actuellement parce que la technologie était trop limitante, si vous voulez. Et là, avec l'avènement de nouvelles technologies, vous êtes en train de faire un gâteau, vous avez de la farine et de la pâte plein les doigts, et vous aimeriez que votre téléphone, vous l'avez disposé de sorte qu'avec sa caméra, il puisse regarder la scène. Et puis, vous lui demandez de vous guider, de faire des commentaires sur la texture de votre pâte, est-ce qu'elle paraît bien ? La conversation doit être assez fluide, peut y avoir du bruit ambiant parce qu'on a par ailleurs de la musique, on a ouvert la fenêtre, il y a le bruit de la rue. Vous vous retrouvez dans un cas qui est en fait essentiellement la gestion du bruit, la gestion de l'incertitude, la gestion de la complexité. Ce sont vraiment des tâches pour lesquelles nous, les humains, sommes absolument excellents et à ce jour bien meilleurs que les machines. L'idée, c'est de pouvoir amener les machines vers ce niveau de robustesse.
Est-ce que l'IA peut aussi devenir quelqu'un à qui l'on se confie, avec qui l'on discute de sa vie personnelle ? Est-ce que cette technologie vocale permet ça aussi ?
Ça pourrait être pour se confier, ça pourrait être pour demander des conseils, ça pourrait être simplement pour vider son sac à la fin de la journée, ça pourrait être aussi pour avoir des conversations avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise à l'idée de les avoir avec ses proches. On peut imaginer tout un champ de cas où l'IA va pouvoir nous accompagner et devenir un interlocuteur auprès des gens. Je pense qu'une technologie qui sera aussi primordiale pour ça, c'est l'acquisition d'une mémoire à long terme. C'est l'idée que plutôt qu'à chaque fois on reparte comme de zéro à chaque interaction avec l'intelligence artificielle, qu'elle apprenne à nous connaître.
Il y a eu, il y a quelques années, un film qui s'appelle Her, avec Joaquin Phoenix, qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Ça, c'est un horizon qui vous paraît possible aujourd'hui ?
Quand on a fait Moshi, Her, c'était clairement un objectif en termes de, si vous voulez, de naturel dans l'interaction. Le naturel de l'interaction entre le personnage joué par Joaquin Phoenix et son IA, ce naturel-là, je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut imaginer le futur des interactions avec des machines. en termes de compréhension mutuelle et d'interaction, ce sera quelque chose qui sera très difficile à distinguer de ce qu'on a avec un humain.
Je voudrais vous faire écouter quelque chose.
À terme, les gens ne vont plus utiliser des moteurs de recherche classiques, ils vont parler à leur assistant virtuel, et puis nous assisteront dans notre vie de tous les jours, qui serviront d'intermédiaire à toutes nos interactions avec le monde numérique, qui permettra de peut-être ne pas passer une heure au téléphone avec l'administration ou le plombier. C'est-à-dire, notre assistant parlera à l'assistant du plombier pour essayer de réparer notre salle de bain. Oui, ça fait très peu de doute.
Cette voix, vous la connaissez sans doute, c'est celle de Yann Lequin, qui est un chercheur français, l'un des pères de l'intelligence artificielle et qui dirige aujourd'hui un laboratoire chez Meta. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ?
C'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. C'est évidemment le genre de tâche où l'IA va faciliter les choses. L'idée d'avoir une IA qui assiste toute la famille au quotidien et qui s'adapte en permanence aux besoins, qui permet de faire de l'aide aux devoirs, tout en aidant les parents à faire la cuisine, qui aide à prendre rendez-vous, à gérer les activités, l'agenda des enfants. Effectivement, tout ça fait beaucoup de sens, mais ça aussi, ce sera beaucoup plus facile si l'interaction est naturelle. Vous pouvez imaginer, notamment, un enfant ne peut pas apprendre à interagir avec une IA aussi contrainte qu'aujourd'hui. Là, on sera vraiment dans le cas où c'est l'intelligence artificielle de s'adapter aux facultés d'élocution d'un enfant, qui sont plus limitées et plus imprévisibles que celles d'un adulte. Alors, on pourrait aussi imaginer, évidemment, à terme, l'incarnation dans un robot. Sauf que les développements en robotique s'avèrent être beaucoup plus lents que ceux en logiciel d'intelligence artificielle. Pour l'instant, si vous voulez, c'est les développements robotiques qui font qu'on n'est pas encore à ce stade-là.
Si je devais m'incarner dans un robot, j'imagine que ça serait fascinant de pouvoir interagir de façon encore plus physique et tangible.
Ça ouvrirait des possibilités encore plus vastes pour la communication. Et toi ?
Et toi, tu te verrais comment ?
Tu te verrais comment dans ce genre de situation ?
Pas encore de robots, donc, à la place des enseignants. Mais à l'école aussi, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente. C'est ce que montre un rapport publié par le Sénat à l'automne dernier, avec un chiffre frappant. En Nouvelle-Aquitaine, où l'étude a été menée, 90% des lycéens de seconde ont déjà eu recours à l'IA pour générer des réponses et faire leurs devoirs. À l'échelle de la France, les enseignants font partout le même constat. Il faut adapter les méthodes de travail. Et c'est précisément le but de Françoise Cahen. Elle essaye d'expliquer à des demi-groupes d'élèves de seconde les écueils de l'intelligence artificielle et l'importance de garder un sens critique.
Donc là, on va avoir une classe de seconde.
Oui, c'est ça, une demi-classe. Et on aura deux groupes successivement. C'est ici.
Ah, il y a une petite musique.
Bonjour. Donc, allez sur des ordinateurs qui fonctionnent. Vous savez qu'il y en a quelques-uns qui ont des problèmes. On est en demi-groupe. Il y a de la place pour tout le monde. Ah, il n'y a pas de souris ici ?
Ah oui.
Alors, c'est un petit atelier principalement fondé sur le principe de chercher l'erreur, en gros. Je leur présente déjà différents résultats de requêtes. Donc, vous allez avoir un petit exercice aujourd'hui qui tourne autour des scènes qu'on a vues hier, les scènes de duel dans le roman « Songe à la douceur » et dans Pushkin, Eugène Onieguine. Mais le but de la séance, c'est de travailler... On m'écoute, s'il vous plaît ? Merci. Donc, c'est de travailler autour de l'intelligence artificielle et de différentes requêtes que j'ai faites, moi, à propos de cette scène qu'on a étudiée hier, d'accord ? Donc, voilà, vous avez 6 petites consignes. Et puis, vous lisez, j'ai posé une question à Léa. Elle m'a répondu, est-ce que tu penses que c'est bien ce qu'elle m'a répondu, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est incomplet, et tu l'améliores en essayant de raisonner. D'accord ? Pour répondre, vous appuyez sur le petit plus.
Je suis Françoise Cahen, professeure de lettres au lycée Maximilien Perret depuis des années, depuis la construction du lycée. Je fais presque partie des murs.
dans un premier temps, on essaie les deux premiers exercices de grammaire, d'accord? Et puis on fait un petit bilan de ce que vous avez trouvé.
ChatGPT, c'est un peu la voie facile. Quand t'as la flemme de faire tes devoirs, t'as la flemme de passer trop de temps, et bah tu utilises ChatGPT.
C'est un peu de la triche, mais c'est le futur. L'intelligence artificielle, c'est... Je trouve que c'est la facilité, mais... À un moment où on est vraiment dans le mal, on est vraiment obligé de l'utiliser pour se sortir.
Ces deux élèves, par exemple, ne s'en sortent pas, puisque pour le moment, voilà, deux élèves qui sont en échec. Hein. Là, dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est l'outil qui vous sauve, que c'est ça qui vous permet d'être en réussite. Et là, concrètement, le conseil de classe, il vient d'avoir lieu. On n'est pas encore sauvé par ChatGPT, là, dans votre cas. Hein. D'accord ?
Nolan, toi, tu as réussi à...
Non, tu sais pas.
Bon, tu peux aller dans Pronote pour trouver le lien, d'accord ?
Là, vous avez posé des questions à ChatGPT sur un livre. On voit que les réponses qui ressortent sont souvent incorrectes,
oui.
Non pertinentes.
Oui, oui, oui. Alors, je veux les alerter parce que moi, j'ai des petits soucis parfois. Quand je demande un travail en autonomie, les élèves répondent en allant sur ChatGPT. C'est très démoralisant pour le professeur parce que les élèves ne vont pas lire le livre. Oh là là, j'ai déprimé ce week-end. J'avais demandé aux élèves de prélever des citations, c'est tout simple, sur un thème. Et en fait, 80% des, comme c'était quelque chose que j'avais demandé à la maison pour une fois, c'était du ChatGPT qui délirait et qui avait inventé complètement des citations qui n'existaient pas dans les livres. Quand on a le meilleur élève de la classe qui, au lieu de relire sa nouvelle d'Edgar Poe pour trouver 5 citations, va demander à ChatGPT de le faire pour lui, on se dit mais non, mais attends. Où j'en suis, quoi. C'est vraiment compliqué. Hein. Ils vont sauter complètement le plaisir de la lecture en ayant une confiance totale dans les intelligences artificielles, alors qu'il y avait des énormités. Hein. J'ai lu une citation d'Annie Ernaux qui dirait « Mon but dans la vie, c'était d'appartenir au groupe des femmes qui avortent, par exemple. » Enfin, c'était vraiment des choses incroyables. Maintenant, le travail sur les citations, je demanderai de rendre le livre avec des marque-pages et l'annotation du livre lui-même, quoi. J'essaie de les éduquer à l'esprit critique, tout simplement, par rapport à ce qu'on obtient sur les intelligences artificielles. On voit bien que souvent, je suis obligée d'intervenir parce que, finalement, dans un premier temps, ils voient bien quelques petites erreurs, mais ils ne voient pas les plus grosses, en fait.
Est-ce qu'il y a une bonne façon, aujourd'hui, pour les élèves de se servir de l'IA dans l'apprentissage ?
L'idée, c'est que aussi, on peut leur apprendre à, déjà, voir différents moteurs d'intelligence artificielle parce qu'ils n'en connaissent qu'un. Leur montrer comment ça peut leur donner des petites idées pour faire un plan, une structure.
Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment formé par l'éducation nationale, notamment, pour faire face à ce phénomène ?
Moi-même, je suis aussi formatrice. Et en fait, les formations, je pense qu'elles se construisent là, en ce moment. Et c'est difficile d'être aussi rapide en termes de réponse de formation qu'en termes d'arrivée des IA dans nos quotidiens. Il y a forcément un petit décalage nécessaire pour qu'on ait aussi, nous, en tant que formateurs, des idées, d'exercices pour les élèves. Voilà, il faut le temps de les tester aussi. C'est complexe. Enfin, il suffit d'entrer dans une salle des profs, que ce soit dans le secondaire, dans le supérieur, tout le monde fait le même constat. Qui est, qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué, oulala, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi donner comme exercice. Qu'est-ce qu'on peut inventer ? On est en train de se donner des petits trucs. Et l'idée aussi, c'est de trouver des espaces de dialogue pour en parler et se former entre nous aussi. Hein, parce que Moi, je ne crois pas que la formation, elle va venir d'en haut, une espèce d'instance divine qui nous dirait, voilà, comment faire avec l'intelligence artificielle. Je pense plutôt que c'est à nous, professionnels, de construire des exercices. Ça a bien marché, je vais le refaire. J'ai trouvé que les élèves, ça leur donnait quand même un petit regard critique. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, ah oui, quand même, faut que je fasse attention. Bon, peut-être pas tous, j'ai pas convaincu forcément tout le monde, etc. Mais il y a voilà, des petites choses à faire qui vont se poursuivre.
Salut ChatGPT, est-ce que tu pourrais me donner les définitions d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique ?
Bien sûr, voici les définitions claires des deux types de suites.
ChatGPT, peux-tu me résumer le dossier que je t'ai joint pour que je puisse le réutiliser dans le cas de ma présentation orale ?
Coucou ChatGPT, ça va ?
Ça va bien, merci. Et toi, comment ça va ?
Moi, je vais bien. En fait, je voulais savoir si j'étais hypersensible. Donc, est-ce que je peux me faire passer le test d'hypersensibilité ?
Bien sûr, je peux t'aider à faire le point sur ce que c'est que l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une manière d'expérimenter les émotions de façon plus intense que la moyenne.
Alors aujourd'hui, en fait, on n'a pas énormément de recul dans la littérature scientifique sur les bénéfices et les inconvénients liés à l'utilisation de ChatGPT. Séverine Herel, maîtresse de conférence en psychologie cognitive et ergonomie à l'Université Rennes 2. Dans les premières études que l'on voit apparaître, donc qui sont vraiment à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'elles ne sont pas nombreuses, on voit que le fait de proposer un soutien par l'intelligence artificielle sur l'écriture de textes, et notamment de textes argumentatifs, ben ça peut aider les apprenants à produire des textes plus pertinents, plus cohérents, avec de meilleurs arguments, quand ils ne bénéficient pas en fait, de ce type de soutien. Donc l'élève produit une première partie de son texte et demande à l'IA comment il peut l'améliorer. L'avantage de l'IA, c'est de fournir un retour personnalisé à l'élève, ce que le professeur, dans une classe avec 30 élèves, va avoir plus de difficultés à faire.
Et dans ce processus-là, c'est bénéfique aussi pour l'apprentissage. C'est pas juste une aide sur le moment, mais dont l'élève ne retient rien à long ou moyen terme.
On est vraiment aux prémices. Et je pense que la première chose à faire pour le moment, c'est déjà d'une part d'expliquer aux élèves que l'intelligence artificielle, elle permet effectivement de faire les exercices, mais que ce n'est pas la bonne solution pour apprendre. Et ce qui serait bien, serait d'envisager de vrais programmes autour de la culture du numérique. L'intelligence artificielle qui explique comment résoudre un théorème de maths et qu'est-ce qui ne va pas dans un texte, pour moi, là, elle a un bénéfice parce que justement, elle fournit un feedback personnalisé à l'élève. Elle lui permet de comprendre et de décomposer des étapes qu'il aurait peut-être mal compris. Et aussi, on commence à avoir des études sur la qualité des quiz fournis par les intelligences artificielles pour se tester à la maison. Et ce qui a été observé dans une étude qui est sortie récemment, c'est que la qualité de ces quiz est plutôt assez sensible, c'est-à-dire elle permet bien de repérer les élèves qui sont en difficulté et ceux qui le sont moins. Donc on pourrait imaginer que si on propose aux élèves, à chaque fois qu'on leur donne un devoir, de s'auto-tester sur ChatGPT avec un quiz, ça pourrait éventuellement les aider à comprendre où est-ce qu'ils en sont par rapport au contenu qu'ils ont vu.
Vous vous dites qu'il faudrait que les enseignants et les élèves soient davantage formés, soient davantage accompagnés ?
Dans un monde idéal, dès que les élèves commencent à toucher un petit peu à l'intelligence artificielle, ils devraient en fait être formés à comment l'utiliser correctement. Et aussi, je pense qu'il y a une vraie formation sur la question de l'éthique et de la responsabilité aussi de l'utilisation de ce type d'intelligence artificielle. Comment utiliser ces IA de manière responsable ? Est-ce qu'il faut que je déclare, moi, en tant qu'élève, que j'utilise ces intelligences artificielles ? Quel niveau de correction j'ai appliqué ? C'est pas la même chose de corriger les fautes d'orthographe ou quelques formulations sur un texte ou de demander directement à l'IA de générer un texte. Donc, il y a un vrai travail, en fait, à faire sur la transparence. Également, il faut former les élèves à toutes les problématiques autour de l'IA. Donc, on entend par là aussi la question des biais. Si je pose une question en français sur un conflit mondial, il va donner essentiellement la vision française et pas la vision du pays. Donc on va parfois avoir en fait des biais qui vont intervenir dans les réponses qui sont données par certains modèles de langage. Et ça, en fait, c'est important que les élèves comprennent d'où vient la réponse qu'on leur donne. Pour moi, l'IA, Elle peut être un outil d'inclusion. On commence à voir apparaître des articles qui évaluent les bénéfices de l'IA chez les élèves qui ont des troubles neurodéveloppementaux, donc pour les aider en fait à faire des textes ou à juger de la qualité des textes. Par exemple, les élèves qui sont TDAH, qui ont parfois des difficultés à planifier des tâches correctement, ben en fait, on peut demander à l'IA de leur produire un planning de révision en fait, pour les aider à faire leurs devoirs. Donc ça, il y a eu quelques études là-dessus qui commencent à apparaître. Et également, on pourrait imaginer que ça peut être un outil intéressant pour les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, donc dyslexie et dysorthographie, parce que justement, l'intelligence artificielle, elle peut permettre de produire des textes plus cohérents et donc de compenser les difficultés. Et aussi, il y a quelques articles qui montrent qu'elle peut produire des exercices de remédiation aussi pour aider ces élèves-là.
Cette aide qu'apporte l'intelligence artificielle, elle se voit surtout dans les entreprises. Pour envoyer des mails, synthétiser des documents, créer des visuels, le secteur du tertiaire l'a rapidement adopté avec un gain de temps et de productivité, mais aussi une menace pour certains emplois. C'est à Montpon-Ménestérol, à 80 km de Bordeaux, qu'on retrouve Laurélie Carive, chez Valentine Hello. Elle a 34 ans, elle est traductrice, un métier complètement chamboulé.
Interception sur France Inter.
Vous nous montrez votre bureau ?
Voilà. L'antre de la traductrice.
L'antre de la traductrice, oui. C'est un métier un peu ermite, donc voilà où je viens me cacher devant mon ordinateur tous les jours.
Petite pièce, mansardée.
Voilà. Le ballon pour de temps en temps s'asseoir de manière un petit peu plus ergonomique. J'ai construit mon bureau moi-même et j'ai fait un petit espace pour mon chat, donc mon assistant, qui me tient compagnie voilà, pendant que je travaille.
On va s'asseoir ?
Ouais.
Vous êtes traductrice dans le domaine du médical et traduction technique aussi.
Ouais.
Ça veut dire quoi ?
Ça peut être des essais cliniques, de la documentation technique. Moi, par exemple, je fais beaucoup de documentation technique pour des prothèses. Donc, ça va être des modes d'emploi, tout bêtement. Voilà, comment le chirurgien il va assembler sa petite prothèse, comment il doit la nettoyer, la ranger, quel boulon utiliser, etc. En fait, ça nécessite de comprendre l'objet, de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir traduire de manière claire. Donc, ça nécessite beaucoup d'intelligence, je pense quand même, et de l'expérience.
De quelle manière l'intelligence artificielle est venue chambouler votre métier ?
J'ai fait un burn-out en 2022 et j'ai arrêté la traduction pendant un an et demi à peu près. Et quand je suis revenue, tout avait changé. La plupart des traductrices sont en freelance et travaillent en tant que sous-traitantes pour des agences de traduction. Et donc, ces agences, elles ont très vite compris qu'il y avait une marge à se faire avec la traduction automatique. L'idée, c'est la machine a déjà fait la moitié du travail, entre guillemets, ou le gros du travail. Donc, vous, on va vous laisser le rafistolage. Tout d'un coup, la post-édition, c'était devenu la norme. La traduction automatique, elle porte très, très mal son nom. Ce n'est pas une traduction. C'est un algorithme qui fonctionne de manière probabiliste. On va donner à l'algorithme une énorme quantité de corpus qui viennent de notre travail à nous, les traductrices, sans notre consentement, bien sûr. Donc, c'est des corpus qui ont été pillés. Et donc, on les a donnés à manger à la machine. Et la machine s'en sert pour faire des probabilités. Donc, elle voit le texte source et elle se dit, voilà, dans la plupart de mes corpus, après ce mot-là, j'ai ce mot-là, donc je vais mettre ce mot-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier de traduction. Donc ça peut être bluffant, les résultats, quand on lit certaines traductions automatiques, de la même manière que quand on lit quelque chose que produit ChatGPT, on a une impression de langage. Mais en fait, c'est un petit peu comme un perroquet. Quand on apprend une phrase à un perroquet, on se dit « Oh, il parle !» Il ne parle pas. Alors, il répète quelque chose, il reproduit quelque chose. Pour nous, ça a des conséquences absolument désastreuses, parce que vous imaginez bien déjà que bien sûr, on demande aux traductrices de faire de la post-édition parce qu'on va les rémunérer moins pour cela. Donc, pour rester un petit peu rentable, on est obligé d'en faire plus et d'en faire plus vite. Et de le faire mal, puisque déjà, la sortie machine, elle est de mauvaise qualité. Donc bon, je ne peux pas réécrire complètement. Si je veux que le résultat soit bon, il faut que je reparte de zéro.
Mais là, c'est une perte de temps.
C'est une énorme perte de temps et je ne suis pas payée pour. Donc, pour rester dans mes frais, je suis obligée d'aller vite et de faire du damage control, comme on dit, donc faire du vite fait,
limiter la casse.
Voilà, limiter la casse. Exactement, limiter la casse, sauver les meubles, c'est ce qu'on pourrait dire. En fait, ce qu'on nous demande la plupart du temps, c'est de faire en sorte que la phrase, elle tienne plus ou moins la route, que grammaticalement, ce soit correct. Et ça importe peu, on dirait, si le texte est bien écrit et si même ça a du sens, en fait. Avec, évidemment aussi, le risque de contresens, le risque d'erreur. Comme la machine ne comprend pas, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut avoir sur des textes un peu sensibles, comme du médical, par exemple, on en parlait, mais...
Par exemple
nucléaire. Moi, je passe souvent mon temps à essayer de comprendre comment fonctionne la prothèse, justement, où est-ce que va cette vis, dans quel sens, qu'est-ce que ça tient, il y a une charnière. C'est très, très mécanique, hein, faut se l'imaginer comme ça. Si je comprends quelque chose de travers, ça va vite dégénérer. Vous imaginez une prothèse qui se décèle à l'intérieur d'un corps, enfin, une hanche qui part en vrille. Bon... La machine, elle ne va pas appeler un médecin pour lui demander, comme moi je fais régulièrement, est-ce que tu penses que ça, j'ai bien compris, on est d'accord, ce boulon, il va là, oui, d'accord. C'est des choses vraiment très dangereuses qu'on met dans les mains d'une machine, en fait. On a une confiance aveugle, il me semble.
Vous, quelles conséquences ça a eu sur vos revenus?
Moi, en ce moment, ça va. Je tourne sur un gros SMIC, à peu près. Ce qui n'est quand même pas incroyable. Bon, déjà, je considère que personne ne devrait gagner le SMIC, c'est pas suffisant. Et deuxièmement, j'ai quand même un master. Avec les tarifs qui sont pratiqués par les agences de traduction, qui captent quand même le gros du marché, on n'est pas sur des salaires mirobolants, voire on est sur de la précarité. Vraiment, toutes les semaines, on a des collègues qui jettent l'éponge, qui arrêtent. Et c'est terrifiant. C'est une véritable dépossession de notre métier, en fait. On ne nous laisse pas faire notre métier, comme on sait le faire. Imaginez-vous, vous coupez les cheveux vous-même, puis aller chez le coiffeur et dire « Bon, on va pas se mentir, j'ai fait le plus gros du travail, je vous donne 10 balles et puis vous sauvez ma coupe. » C'est la même chose. Comme si être coiffeuse, c'était pas un vrai métier, c'était pas, il n'y avait pas un geste à apprendre, il n'y avait pas... Voilà. C'est du mépris total. Et puis, c'est complètement insultant, ouais.
Le message peut surprendre lorsqu'il apparaît sur le téléphone d'un demandeur d'emploi.
Bonjour Miguel, je suis l'assistant virtuel du conseiller France Travail La Roche-Sud et je vous propose le poste d'agent de propreté des locaux.
Le demandeur d'emploi a le choix entre ignorer ou répondre au SMS en posant des questions sur le lieu, le type de contrat, sa rémunération. Un robot s'occupe des réponses à la place de Marie Bertin. Elle est conseillère France Travail Pro à La Roche-sur-Yon.
Plutôt que de passer parfois une matinée à essayer de joindre le candidat, clairement, moi j'ai lancé mes SMS. Ça m'a pris aller 20 minutes. Et eux, en instantané, ils répondent à la question. Donc ça me permet de faire autre chose.
Je suis à Ronchois, sous une pluie fine. C'est en Seine-Maritime. Et je me trouve devant la ferme de François l'Écossais. Un grand bâtiment, entouré de hangars. Il est éleveur laitier. Et lui... L'intelligence artificielle est entrée dans sa vie il y a à peu près 3 ans. Il utilise des caméras intelligentes avec un système qui s'apparente à celui de la reconnaissance faciale pour surveiller et analyser le comportement de ses vaches et déterminer si elles sont en période de chaleur. C'est très important pour l'insémination. C'est un outil qui s'appelle AI Herd qui est développé par une start-up nantaise.
Laurélie, François. Vous êtes François ?
L'Écossais, c'est ça.
Enchantée.
Enchantée.
Merci de m'accueillir.
Vous pouvez avancer en voiture jusque là-bas.
Ah ouais ?
J'ai un camion du laitier qui va repartir après et ça va être compliqué sinon, si ça vous dérange pas.
Eh ben j'avance, ok.
Parfait.
Il y a le camion du laitier, là ?
C'est ça. Voilà, il vient d'arriver, il prend le lait tous les 3 jours. Je vous emmène à la ferme.
Merci de m'accueillir.
Eh ben, il n'y a pas de quoi. Merci de venir.
Je vous suis, donc là, on va voir les vaches.
C'est ça.
Il y a le bruit du camion qui récupère le lait. On s'en éloigne.
Voilà. C'est le bâtiment des vaches laitières, ici.
Ah ouais, elles nous regardent toutes. C'est quoi comme race de vache ?
C'est des Primolstein.
Ouais. Vous en avez combien ?
130 vaches à la traite.
Donc c'est une exploitation de bonne taille ?
Oui, oui, ça va. On a de quoi s'occuper.
Il y a une petite approche ?
Ça s'appelle Tomate. Elles ont tout un nom, mais je les connais pas tous, mais celle-là, je sais que c'est Tomate.
Salut Tomate.
Là, ici, on est dans le bâtiment des vaches laitières. Donc, bâtiment logette avec raclage automatique.
Ça veut dire quoi ?
Donc, logette, ça veut dire que chaque vache a une place pour se coucher. En fait, elle est libre, mais c'est elle qui choisit la place où elle veut dormir. Elles ont un matelas pour se coucher dessus, quoi. Donc là, on va voir. Vous avez les numéros sur les boucles d'oreilles. Et donc là, par exemple, celle-là, c'est la 0049. Derrière, c'est la 0071. Et là, on voit, elles sont en chaleur. En fait, elles vont se chevaucher l'une l'autre et tout. Et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, il y a les caméras en haut du bâtiment.
Ah
donc,
oui.
Donc la caméra va nous dire qu'elles sont en chaleur.
Donc là, il y a 5 caméras dans toutes les tables.
Oui, c'est ça. Ça permet de quadriller l'ensemble du bâtiment.
Elles fonctionnent 24 heures sur 24.
C'est ça, voilà. 24 heures sur 24 et elles nous permettent de voir les vaches en chaleur pour savoir à quel moment les inséminer. Et aussi, s'il y a des vaches qui ont des petits soucis de santé, ça permet de nous alerter pour aller voir ensuite ce qu'il peut y avoir. Bon, il y a ce qui commence, c'est là-bas. Il y a un petit panneau en bois avec un truc rectangulaire là-dessus. Là.
Ouais.
Un petit carré bleu. En fait, ça, c'est un panneau d'identification. Donc, quand la vache passe avec sa boucle du côté gauche, elle est un peu plus grosse. Dedans, il y a une puce électronique qui fait que la vache est repérée par la caméra et traquée toute la journée. Pour voir ce qu'elle fait, si elle reste couchée, si elle mange, si elle dort. Et ça permet aussi de la localiser dans le bâtiment. Si j'ai besoin de chercher un animal, je peux le trouver d'abord après l'application. Quoi.
Là, on est sur un élevage plutôt intensif ?
Plutôt intensif, oui, c'est ça. Après, c'est assumé, c'est quelque chose que j'aime. C'est pas pour ça que les animaux sont malheureux. On voit, ils sont calmes, quoi. J'ai pas honte d'avoir des animaux qui sortent pas parce que je mets tout le confort dans le bâtiment, finalement. Je suis quelqu'un qui aime bien la performance, quoi. Enfin, les vaches qui ont du lait et qui vont bien, quoi.
Est-ce que vous pouvez me montrer là où sont vos ordinateurs ?
Oui, donc ça, c'est au bureau de la maison.
Il y a des jouets, plein de classeurs.
Du bazar. Ma femme fait les papiers avec les enfants dans les pattes, on va dire.
Donc là, on est devant votre ordinateur et voilà. On voit s'afficher à l'écran la vidéo de l'étable. On voit les vaches en temps réel. Il y a un petit panneau live en bas à gauche, d'ailleurs.
Et chaque animal a une petite étiquette avec son numéro décrit au-dessus. Donc si l'étiquette est bleue, tout va bien. Et si l'étiquette est rouge ou jaune, je vais en trouver, c'est que l'animal est à surveiller ou est en chaleur.
Alors, et on change de caméra.
Donc si, je vais dans la petite cloche. Et voilà, donc la 71 était en chaleur aujourd'hui, 94-66, la 49. Et si ces vaches-là sont en chaleur, soit je dois les inséminer 12 heures après l'alerte. Par exemple, ce soir, je sais que j'aurai la 71 à inséminer et la 49. Ouais, par exemple, si on va se mettre sur un animal au hasard, on a accès à sa fiche. Donc là, c'est ses déplacements dans la journée, en fait. En santé, elle est plutôt bonne, elle a 66%, donc c'est plutôt bien. Elle se déplace pas mal, elle mange bien, elle boit bien, donc c'est un animal qui va bien.
Mais ça, comment les caméras, elles le savent ?
Le fait de tracer l'animal toute la journée. Et c'est exactement le temps d'abreuvement, le temps à manger à l'auge, le temps de couchage. Et en fait, il y a des normes. Si ça décroche, là, on peut avoir l'alarme à surveiller l'animal.
Donc en fait, la seule observation de son comportement permet de savoir si elle est en bonne santé ou pas.
C'est ça.
Donc là, toutes vos vaches, ça va ?
Apparemment, ça va. Là, apparemment, ça va, oui. À l'avenir, j'espère que je louperai beaucoup moins de vaches avec des petits problèmes de santé, être plus réactif, limiter aussi notre consommation d'antibiotiques, consommation de produits vétos en tout genre. Si on voit qu'il y a un souci, des fois, nous, à l'œil humain, on le voit souvent trop tard, on n'est pas tout le temps dans le bâtiment. Donc le fait de voir les choses plus vite, peut-être qu'un petit anti-inflammatoire peut faire passer un problème qui se sera aggravé et qu'on aurait vu trop tard et obligé de traiter aux antibiotiques.
Est-ce qu'il y a un enjeu de gain de temps ?
Il y a un enjeu de gain de temps. Je pense qu'en moyenne aujourd'hui, je gagne à peu près 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, c'est 90 heures par an. Parce qu'on multiplie par 365 et du coup, c'est énorme.
Parce qu'à quoi on voit qu'une vache est en chaleur ?
C'est des animaux qui se rapprochent plus, des chevauchements... fait, l'animal en chaleur se laisse chevaucher par d'autres animaux en pensant que c'est le taureau, quoi, finalement. Quand on veut être un peu plus performant en lait et tout ça, quand on perd un cycle, la vache baisse en productivité, plus elle avance dans sa lactation. Et donc, ça fait que c'est dommage, quoi. Enfin, c'est un peu la perte de temps, c'est la perte d'argent aussi, quoi. C'est un petit manque à gagner, quoi. On optimise, on va dire. Ça fait partie de la vie contemporaine, on va dire. Dans tous les domaines, c'est comme ça, quoi. En fait, la limite aujourd'hui, c'est à nous d'imaginer ce qu'on peut poser comme question, par exemple, à l'intelligence et tout ça. Et ça peut aller très, très vite, très, très loin, je pense. On a même du mal à imaginer à quel point la machine peut être performante et peut nous aider aussi, quoi. Parce que le but, c'est ça, c'est qu'elle nous aide.
L'IA dans nos vies, c'est un reportage de Laurélie Carive, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Guillaume Giraud, attaché de production Martine Messonnier, mixage Jason Taous. Pour réécouter cette émission, abonnez-vous à Interception sur l'appli Radio France.